Alléluia. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Alléluia. Je suis venu avec ma femme Annabelle et ma petite fille Eden. Si vous pouvez vous lever, faire coucou. Et ça va être Annabelle qui va prêcher la parole la semaine prochaine. Son ministère est différent du mien et complémentaire. Souvent, je viens pour briser et elle vient pour construire. Dieu nous a fait comme cela. Et c'est une joie d'être au milieu de vous. J'étais venu à la conférence avec le pasteur Ivan dernièrement. Et c'était une joie d'être ici et de revoir aussi le pasteur. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans la francophonie. Je crois que Dieu veut établir une église glorieuse, sans tache ni ride. Et on est participants de tout ça. Et une chose qui nous empêche vraiment de pouvoir être cette église glorieuse, sans tache ni ride, c'est l'hypocrisie, le mensonge, les choses que nous faisons et qui ne sont pas le reflet de notre cœur. Et c'est pour ça que je crois avoir été inspiré par le Saint-Esprit à vous encourager à être comme à la maison. Parce que je crois que parfois Dieu et les anges sont surpris et lorsqu'ils nous voient arriver à l'église, ils se disent « mais c'est bizarre, c'est plus la personne que je connais ». On arrive à l'église, on commence à bien se tenir droit, à se regarder les uns et les autres. On commence à applaudir alors que ce n'est pas notre style. Après, on a une certaine voix dans la prière, alors que ce n'est pas la façon dont on prie. Et on commence en fait à imiter les gens qui sont autour de nous et à prendre une forme qui ne pourra jamais être une forme glorieuse. Dans Galates au chapitre 1, au verset 6, et je voudrais vous parler aujourd'hui de craindre et aimer Dieu ou craindre et aimer l'homme. La crainte de Dieu, la crainte de l'homme, l'amour de Dieu, l'amour des hommes. Dans Galates au chapitre 1 au verset 6, alléluia. Et je veux particulièrement saluer Aurélie Tchatchou qui travaille avec nous à Enseigne-moi et qui est dans le ministère avec nous dans cette grande vision. J'avais dit que je le ferais, alors je te salue Aurélie. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Il est écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il n'y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il nous sera impossible de servir Dieu si on cherche la faveur des hommes. Et il faut déjà comprendre que le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui a un cœur pour servir le Seigneur. Souvent, on nous parle des serviteurs de Dieu et c'est ce qu'on voit tous les dimanches matins. Mais le serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément ce que vous voyez derrière un pupitre ou un micro. Puisque David n'avait pas de micro lorsqu'il était en train de servir Dieu et de le contempler et d'écrire des psaumes, qu'il était derrière ses brebis, c'était un serviteur de Dieu. Quand Noé était en train de construire son arche, la Bible dit qu'il était prédicateur de la justice. Il est en train de travailler avec du bois et c'était un serviteur de Dieu. Alors nous sommes tous des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, à partir du moment où nous l'avons accepté. Et ce sera impossible de pouvoir servir Dieu si nous cherchons à plaire aux gens, si nous cherchons à plaire à la famille, si nous cherchons à plaire à l'Église, si nous cherchons à plaire aux chrétiens, si nous cherchons à plaire au monde. Et nous voyons dans l'histoire de plusieurs hommes de Dieu dans la parole qu'il y avait des gens avec un caractère vraiment différent, des gens qui étaient morts à la critique des gens et qui étaient morts aussi à la louange d'autres personnes. Et ces gens comme le prophète Jérémie, comme Moïse, qui au début a dû prendre le choix de mourir au regard des gens et à la faveur des hommes, ces gens qui sont morts à la faveur des hommes et à la recherche du compliment, de l'approbation, ont pu accomplir jusqu'au bout l'œuvre de Dieu. Et il y en a d'autres qui, au bout d'un moment, ont commencé à aimer les gens. Et je ne parle pas ici de l'amour des gens, pour les bénir, mais de l'amour d'une personne au-delà de celle de Jésus. Comme Jésus a dit, tu ne peux pas aimer ton frère, ta sœur, tes parents plus que moi. Et il y a dans nos vies des temps, des situations particulières où nous allons être confrontés au choix de la religion et de la faveur des hommes, ou au choix de Dieu et de la faveur de Dieu. Il y a des choses qui sont mises devant nous, et c'est toujours à travers un homme, qui sont mises devant nous où nous allons, notre cœur va être révélé et nous allons manifester ce qui est véritablement dans notre cœur. Quand le peuple d'Israël s'est avancé et que Goliath s'est avancé auprès d'eux, le peuple d'Israël a manifesté ce qui était dans son cœur, et c'était la peur, c'était l'incrédulité, c'était le manque de confiance en Dieu, c'était le manque d'intimité, c'était toutes sortes de choses qui étaient dans le cœur de ce peuple. Lorsque Goliath s'est avancé et que David, par hasard, est passé par là, le cœur de David a été révélé. Et on a vu confiance en Dieu, intimité avec Dieu. Il ne recherchait pas la faveur des hommes. Et même lorsque son frère aîné, Eliab, a commencé à vouloir l'arrêter, a commencé à vouloir le restreindre et l'amener dans une religion, il a refusé, il a dit « Mais qu'y a-t-il ? En voilà une affaire. » Et il a continué sa route. Quand on a essayé de le décourager et de l'amener toujours dans ce cercle religieux, il a continué sa route. L'apôtre Paul était vraiment très surpris quand il a parlé aux Galates, parce qu'il a vu qu'ils avaient commencé à se détourner de l'évangile. Parce que des gens étaient venus pour corrompre l'évangile de Christ, pour pervertir l'évangile de Christ. Comment on pervertit l'évangile? Comment on pervertit quelqu'un? Comment on pervertit un homme? C'est en l'amenant à devenir une femme. Comment on pervertit un homme? C'est en l'amenant à avoir peur. Peur des animaux, peur des circonstances, peur des démons. C'est comme ça qu'on pervertit un homme et c'est comme ça qu'on pervertit l'évangile. On pervertit l'évangile lorsque on ne vit plus selon l'évangile. Un chrétien perverti, un chrétien corrompu, c'est quelqu'un qui marche à la fois dans le monde, à la fois avec le Seigneur, qui marche dans l'église, mais il marche dans la religion. Et il vient à l'église et il montre une certaine image, une certaine apparence. Et ce qu'il montre à l'église est tellement différent de ce qui est à la maison. Et il y a tout un mouvement qui est venu, c'est le mouvement de la foi, où on a commencé à proclamer la parole de Dieu, on a commencé à proclamer des versets de la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu, et c'est une excellente chose, c'est merveilleux. Mais à cause de cela, on a commencé à dire aux gens, quand vous êtes malades, dites que vous êtes guéris. C'est vrai, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les gens, lorsqu'ils ont fait face et ils ont été sous des circonstances contraires, ils ont commencé à avoir un langage qui n'était pas le langage de leur cœur. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. » Et la parole de Dieu dans la bouche de quelqu'un, Elle peut être une lettre qui tue, comme elle était dans la bouche des pharisiens, ne produire aucune vie. C'est quoi la corruption? C'est quoi la perversion de l'évangile? C'est quoi un chrétien perverti, un chrétien corrompu? C'est un chrétien qui montre ou qui parle d'une certaine manière, et cette manière n'est pas le reflet de son cœur. Et à chaque fois que quelqu'un vient ici pour chanter, et qui commence à chanter, et que ce n'est pas le reflet de son cœur, il démontre une perversion dans son cœur. Quand quelqu'un commence ici à encourager les gens à louer, alors qu'il n'a pas loué une seule fois à la maison et que ce n'est pas un adorateur, la personne pervertit l'évangile. Et on peut très facilement montrer une certaine image. Il y a des gens qui sont malades et par peur de qu'on prie pour eux, par un orgueil, par une espèce d'apparence qu'ils veulent avoir, ils veulent montrer aux gens qu'ils sont quelqu'un, ils veulent montrer aux gens qu'ils ont la foi. Ils n'ont pas l'humilité de venir auprès d'un frère et d'une sœur et de dire « mais voilà mon problème ». Il y a des gens qui restent pris avec des problèmes toute leur vie parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité d'aller confesser leur péché à un frère ou une sœur qui aurait pu prier pour eux et les libérer. L'orgueil, ça nous empêche d'aller dans notre destinée. La peur de l'homme, la peur de qu'est-ce qu'il va penser. Qu'est-ce qu'il va penser si je me mets à genoux? Qu'est-ce qu'il va penser si je m'allonge? Qu'est-ce qu'il va penser si je commence à louer Dieu comme je le fais à la maison? Et on entre comme ça dans une religion, dans des apparences. Les mêmes apparences qu'avaient les pharisiens. Se présentant comme des gens qui connaissaient Dieu, et quand le Fils de Dieu s'est présenté devant eux, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas reconnu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il doit y avoir un choix dans notre vie. Est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu ou est-ce qu'on cherche à plaire aux hommes? À qui je cherche réellement à plaire? Quand on cherche à plaire aux hommes, on va prendre des décisions dans nos vies qui démontrent cet amour pour les hommes. On va nous proposer du compromis. On va nous proposer des choses et on va entrer dans ces choses parfois pour ne pas blesser ou parfois parce que par facilité pour entrer dans le moule de la société ou dans le moule de l'Église. Lorsque Jean-Baptiste a paru, son ministère était tellement différent que tous les autres ministères. Il était différent. Imagine! Si Dieu t'appelait à avoir le ministère de Jean-Baptiste, aujourd'hui ce serait très difficile. Parce qu'on nous a montré une certaine image de ce qu'est un chrétien. On nous a montré une certaine image de ce qu'est la louange. On nous a montré des postures, on nous a montré des façons de prier, on nous a montré des façons de nous comporter. Et on pense que c'est ça être un chrétien. Et lorsque Dieu va nous appeler à être différents, à entrer dans notre destinée, nous allons être confrontés soit à chercher la faveur de l'homme pour ne pas déplaire, ou soit à chercher la faveur de Dieu et s'approcher de plus en plus de lui. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, on peut être serviteur de Dieu et chercher à plaire aux hommes. C'est très facile. C'est très facile d'avoir une foule derrière soi et de prêcher ce que les gens veulent entendre. Très facile de plaire aux gens et de prêcher ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que des gens sont passés à côté de la destinée que Dieu avait pour eux parce qu'au bout d'un moment, ils ont cherché à plaire aux gens. Ou à plaire à quelqu'un. L'apôtre Paul dit que moi, mon évangile, je l'ai reçu d'une révélation de Jésus-Christ. Notre vie devrait être conduite et nous devrions marcher dans ce monde sur la révélation de la parole de Dieu. On devrait marcher sur une révélation. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi personnellement? Si je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi, je serai sans vision et je vais perdre tellement de temps. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, quelle est la révélation. Parce que Dieu parle. Et parce que Dieu sait très très bien ce à quoi il nous a appelés. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu, et pas seulement de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la parole de Dieu ne changera absolument rien dans notre vie. Il nous faut la révélation de la parole de Dieu. Vous voyez, dans bien des bibliothèques, les gens ont la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle change dans leur cœur? Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu à chaque sabbat, qu'est-ce que ça change? Ils n'ont pas de révélation. L'apôtre Paul n'avait pas de révélation, il persécutait l'Église. Mais lorsque Jésus s'est révélé à lui, il a marché dans cette révélation et il s'est empêché toute sa vie et pendant tout son ministère qu'un homme puisse dominer, exercer une influence sur la révélation. Il y a des gens qui reçoivent une révélation de l'Esprit de Dieu et ils s'imaginent que cette révélation va fonctionner en se conformant à la révélation de quelqu'un d'autre ou à la parole de quelqu'un d'autre ou à la vie de quelqu'un d'autre. Avec le Seigneur, c'est un chemin, c'est une rivière unique. Dieu nous amène quelque part et celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Comment tu peux attraper le vent? Est-ce que tu as déjà essayé d'attraper le vent? Ce n'est pas possible d'attraper le vent. On ne peut pas l'attraper. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Alors le chrétien qui marche selon l'évangile de Christ et qui n'est pas corrompu, ce n'est pas un chrétien bizarre qui va ici et là à coup de révélation humaine. Nous parlons d'une véritable révélation, celle de Jésus-Christ et de ce que Dieu peut établir dans notre esprit par rapport à notre appel personnel. L'apôtre Paul dit que moi, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, au verset 16, lorsqu'il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. On consulte beaucoup trop la chair et le sang. En fait, en venant ici dans la voiture, Dieu m'a dit, on est beaucoup trop proche des gens et pas assez proche de lui. Trop souvent, on est proche des gens et on n'est pas proche de Dieu. On est trop proche des gens et pas assez de Dieu. Et ça, c'est un grand problème. Et c'est pour ça qu'il faut nous établir dans notre position céleste en Christ, assis dans cette position d'autorité, de gloire et d'intimité, proche de notre Père céleste. Parce que c'est là que Dieu nous parlera. C'est là que Dieu nous formera. C'est là que Dieu nous émondera. C'est là que Dieu nous dirigera. C'est là que Dieu précisera les étapes et précisera les phases. Il y a des gens qui veulent accomplir l'œuvre de Dieu, mais ils sont trop sur la terre. Et ils marchent sur la terre. Au bout d'un moment, ils disent, mais où est ce Moïse? Formons-nous un veau d'or. Il faut qu'on avance quelque part. Ils sont impatients. Mais il y a des gens comme Moïse qui montent sur la montagne à la recherche de la révélation. Père, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne peux pas vivre sans la gloire de Dieu. Je ne peux pas vivre sans une révélation fraîche du Seigneur. Je ne peux pas vivre sans cette vie que Jésus m'a promis et sans ces fleuves d'eau vive que Dieu m'a promis. Et si je vis sans ces choses-là, petit à petit, obligatoirement, je vais corrompre mon âme et je vais corrompre ma vie et entrer dans une vie qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle que le Seigneur avait en réserve pour moi. Je vais commencer à imiter les gens parce que j'ai pas de révélation. Et quand je n'ai pas de révélation, je vais regarder à droite et à gauche et je vais me conformer au monde présent. Et plus je serai dans le monde et plus je vais m'y conformer et plus je serai dans l'église et plus je vais me conformer à l'église. C'est bien de se conformer à l'église lorsque les gens qui sont dans l'église aiment véritablement le Seigneur. Et c'est bien d'avoir des modèles. L'apôtre Paul dit, suivez mon modèle, moi qui marche selon le modèle que j'ai vu en Jésus-Christ. Sans révélation de Jésus, nous sommes perdus. Sans révélation de Jésus, nous allons marcher sur la terre et mourir sans avoir accompli ce que le Seigneur avait pour nous. On aura beau avoir une belle maison, une voiture, un travail, des enfants, une famille, tout ce qu'on veut, et on sera passé à côté de la chose primordiale. Oh mon âme, tu as accumulé beaucoup de biens, profites-en maintenant et jouis de la vie. Tellement de chrétiens sont comme ça. La recherche de leur cœur, leur désir, c'est de prospérer, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir de l'argent, d'avoir de l'argent. Ils veulent réussir et réussir et réussir, mais est-ce qu'ils ont demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta révélation? Quelle est la révélation? Dieu a parlé à Élie, il lui a dit, tu iras près de ce fleuve-là. Et là, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Matin et soir, ces corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Matin et soir. Puis quand la sécheresse est venue, il a dit, là, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et il a été suivant la parole de l'Éternel. Il faut suivre la parole de l'Éternel. On tourne en rond des fois et on cherche des choses parmi les hommes au lieu de les chercher auprès de Dieu. Et on s'imite les uns et les autres. Et ça devient mort et ténébreux. J'ai été dans une église comme cela où les gens s'imitaient les uns et les autres. On priait semaine après semaine et personne n'était changé. Tout le monde trouvait ça normal apparemment. On ne se posait pas de questions. Bah, c'est ça l'église. C'est ça l'évangile. Et aujourd'hui dans l'église, on pense que c'est normal de ne pas avoir une intimité fraîche avec le Seigneur. On pense que c'est normal de ne pas voir le Seigneur, de ne pas le toucher. On pense que c'est normal de ne pas voir la gloire de Dieu. Et lorsque quelqu'un vient nous parler de la gloire de Dieu et de son expérience personnelle avec le Saint-Esprit, on imagine qu'il a quelque chose de différent. Non. Nous sommes appelés à une intimité avec le Seigneur. Il dit « Quand Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils, je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang. » Mais aussitôt, je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. Et seulement 3 ans plus tard, j'ai fait connaissance avec Céphas. Ce n'est pas un homme qui te donnera la vision pour ta vie. Mais c'est Dieu. Dans 1 Rois au chapitre 3, il y a l'histoire d'un jeune prophète. On voit du verset 1 au verset 3 qu'il va prophétiser. Et il dit au verset 3, le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe du fait que l'Éternel a parlé, suite à sa parole, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et là, le roi va prendre le prophète. Mais finalement, lorsqu'il va lever sa main contre lui, sa main va être paralysée, son bras va être paralysé, et il va supplier à l'homme de Dieu, au prophète de Dieu, de le guérir. Et au verset 8, lorsque l'homme de Dieu va prier, il écrit, l'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau. » Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Dieu a parlé à ce jeune prophète, et il lui a dit, tu vas aller voir le roi, et voici, ainsi parle l'Éternel. Il a dit, lorsque tu partiras de là, tu ne prendras pas le même chemin. Tu prendras un chemin différent, tu ne boiras ni pain, tu ne boiras ni eau, et tu ne mangeras pas de pain. Mais des fois, Dieu nous demande des choses, c'est bizarre, pourquoi il fait ça? Est-ce que vraiment ça change quelque chose que je prenne ce chemin ou l'autre chemin, puisque ce même chemin m'amènera là où je l'ai voulu? Pour un plat de lentilles, on peut passer à côté de la gloire de Dieu. Combien de gens Dieu a appelé à jeûner, à passer du temps dans sa présence particulièrement, et tu commences ton premier jour de jeûne? Et quelqu'un t'invite à manger. Et tu ne veux pas décevoir, alors tu y vas. Je me souviens que la première fois que j'ai décidé de jeûner, ce jour-là, j'étais chez mes parents, j'ai ouvert le frigo et le frigo ne m'a jamais paru aussi plein. On passe à côté de la gloire de Dieu quand on n'obéit pas scrupuleusement à la parole de l'Éternel. Et c'est ça. Dieu sait très bien quel chemin nous amener, là où nous amener, quel chemin on doit emprunter. Il sait très bien comment nous conduire. Et rappelez-vous que le peuple d'Israël suivait la nuée et la colonne de feu. Et quand la colonne restait, il restait. Et quand la colonne se levait, il se levait. Et même si c'était fatigant, et parfois c'était un seul jour, parfois c'était 3 jours, parfois c'était 1 mois, mais il continuait à suivre le Saint-Esprit. Et c'est important de continuer à suivre le Saint-Esprit dans ce qu'il te dit, de ne pas être en retard, ne pas être en avance et ne pas faire un second plan, un second chemin, un chemin que tu te traces toi-même parce que les choses n'avancent pas comme tu le veux. Dieu avait dit, tu partiras par un autre chemin. Tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Et là, tout à coup, il y a quelque chose de bizarre au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsque le fils eurent fait ce récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Le vieux prophète va aller auprès de ce jeune prophète et il va lui dire, viens manger chez moi. Et le jeune prophète a dit, non, il va dire, Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas m'arrêter et d'aller par un autre chemin. Et là, le vieux prophète va dire, oui, mais un ange m'est apparu et il m'a dit de te prendre chez moi afin que tu manges du pain et que tu boives de l'eau. Imaginez-vous dans la situation de ce jeune prophète. Vous vous dites, j'ai accompli la parole de Dieu, j'ai dit ainsi parle l'Éternel, et je n'ai pas accepté les présents du roi, je ne me suis pas souillé, j'ai pris l'autre chemin, et maintenant un homme vient me dire qu'un ange lui est apparu, et que maintenant je peux manger et boire. Que feriez-vous ? On pourrait commencer à se dire, oui, bah, j'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Maintenant il est temps de manger, il est temps de boire. Le Seigneur me rassure, il me dit, c'est bon, vas-y. L'évangile corrompu. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si rapidement de l'évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens. Il y a des gens. C'est les gens le problème. Et c'est notre cœur qui va agir selon ce que nous disent les gens. Ce jeune prophète est allé chez ce vieux prophète. Et pendant qu'il était chez lui, le vieux prophète a commencé à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Au verset 21. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. Et alors, pendant qu'il est allé, voici qu'un lion l'attrapa en chemin et le tua. Comment on peut se détourner de notre appel, de l'évangile, de ce que Dieu nous a dit? Il y a tellement de gens dans l'église qui passent à côté de ce que Dieu veut pour eux, parce qu'ils imitent les gens et parce que lorsque Dieu leur parle, ils commencent à regarder à droite et à gauche. Et ils ne voient pas de vis-à-vis. Ils ne trouvent pas de modèle. Alors ils conforment le plan et ils conforment la vision selon l'homme. Et selon ce qu'ils peuvent trouver chez quelqu'un qui pense avoir réussi. Et quand Dieu lui dit, tu ne fais pas ceci ou tu ne fais pas cela ou tu iras là et tu iras là. Voici que la personne commence à écouter la voix des hommes parce qu'elle est trop avec les hommes. Ce qui va nous empêcher d'être corrompu et de nous détourner, c'est notre intimité avec Jésus. C'est notre intimité avec le Père. L'intégrité à suivre la parole de Dieu et ne pas entrer dans le compromis. Il ne faut pas entrer dans le compromis, mais il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Ma sœur au fond, à gauche de la personne qui a... Oui, c'est vous. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. C'est dans la parole et l'accomplissement de la parole que se trouve la provision et la joie. C'est là que se trouve la paix. On aura des tentations. Et la Bible dit qu'aucune tentation qui vous est parvenue, toute tentation était humaine. Aucune de ces tentations n'était divine. Dans 1 Roi au chapitre 11, on voit Salomon, cet homme, avec une sagesse extraordinaire. Rappelez-vous comment il a commencé sa vie. Dans une vision, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il a eu un cœur si pur pour le Seigneur. Il lui a demandé de la sagesse et de l'intelligence afin de diriger son peuple. Et Dieu a répondu à sa prière. Il lui a dit, parce que tu n'as pas demandé l'or, l'argent, toutes ces choses-là, en plus de la sagesse et de l'intelligence, je te donnerai ces choses. Et cet homme, pour remercier Dieu, il a offert 1000 holocaustes au Seigneur. Il y a des temps où le Seigneur nous touche, parfois à notre conversion, parfois quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, et on est là dans le premier amour pour le Seigneur, et on l'aime, on l'adore, on le glorifie, on est tellement pur, tellement concentré, on est semblable à une épée à double tranchant, on sait très très bien trancher, faire la différence entre ce qui est vil et entre ce qui est pur, entre ce qui est impur et qui est pur. Les choses sont très marquées dans notre vie. Et c'est là qu'on commence à être confronté au monde et aux pensées du monde. Et il y a les premières confrontations entre ce monde des ténèbres et ce que le Seigneur fait en nous. Salomon a écrit les Proverbes, plein de sagesse, des choses extraordinaires. Il a marché avec Dieu. Il a bâti la maison de Dieu. Et après l'avoir bâti, il a prié, il a demandé à Dieu d'habiter dans cette maison. De tout son cœur. C'était quelqu'un d'intègre. C'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et au bout d'un moment, au verset 11 du chapitre 11, au verset 1, pardon, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. On peut très bien commencer, mais très mal finir, à cause des gens. Et bien sûr, au fond, ce n'est pas les gens le problème, ils viennent seulement refléter un problème dans notre cœur. Puisqu'ici, c'est Salomon qui a pris la décision d'aimer beaucoup de femmes étrangères. C'était un choix de son cœur. Il y a des choix qu'on doit prendre. Parfois, on me pose la question, voilà, je suis avec un incroyant, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que tu dois faire? Je ne suis pas marié, on est fiancé, on se pose des questions. Eh bien, marie-toi et marche dans la malédiction. Marie-toi et regrette-le toute ta vie. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Nous savons très bien quelle est la volonté de Dieu lorsque nous avons vraiment un cœur pour la vérité. Quand on a un cœur et l'amour pour la vérité, on n'a pas besoin de 10 000 prophètes. On a besoin d'écouter la voix de celui qui nous parle. Et de celui qui dit, ne résistez pas au Saint-Esprit et n'attristez pas mon esprit. Le compromis, beaucoup de gens sont dans le compromis. Et Salomon est entré dans le compromis, il a commencé à aimer une femme. Comme David qui a vu cette femme qui était là en train de se laver. Puis il a aimé 2 femmes et 3 femmes. Puis il est tombé dans la déchéance. Et il eut 1000 femmes, 700 princesses et 300 femmes. Et il est écrit au verset 4, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. » Parfois on voit des ministères, ce sont des modèles, ce sont des gens qui prêchent la parole de Dieu avec intégrité, avec vérité. Ce n'est pas des gens qui sont là pour se montrer. Ils nourrissent notre âme, ils nourrissent notre cœur de la parole de Dieu. Et on voit ces gens tout d'un coup, un jour ils tombent et on est déçu. On se dit pourquoi? Salomon était une de ces personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous, rappelez-vous, il était en train de servir le Seigneur. Il a construit, a bâti la maison de Dieu. Il a prié, Seigneur, vis dans cette maison, habite dans cette maison, viens dans cette maison. Et que tous ceux qui viendront dans cette maison et qui ont péché, quand ils feront appel à ton nom, il a répété encore ton nom, ton nom, ton nom. que tous ceux qui font appel à ton nom soient pardonnés. Et Dieu a fait une alliance avec lui. Il a dit, si tu marches bien avec moi, si tu marches dans mes prescriptions et mes ordonnances, si tu obéis à mes commandements, je serai avec toi. Et regardez ce qu'il a fait. Au verset 6, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Cet homme qui avait bâti le temple de Dieu était avec ses propres mains en train de bâtir des autels à des idoles. Comment quelqu'un peut faire ça ? Comme cet homme dans les Proverbes, la Bible dit qu'il est sot, qu'il est stupide, et qu'entraîné par sa convoitise, il est entraîné vers la porte de cette femme adultère. Et tout à coup, comme une bête qui va à l'abattoir, il commence à la suivre et entre dans sa maison pour sa perdition. Et la Bible dit qu'ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Le compromis. Je ne veux pas marcher dans le compromis. Je ne veux pas chercher la faveur des hommes. Et on doit être vigilant. Et on doit faire attention. J'ai vu des pasteurs qui s'empêchent de prêcher ce que Dieu leur a dit parce qu'ils ont peur des gens. Et ils sont complètement perdus. Parce qu'ils s'empêchent de faire ce que Dieu leur dit de faire. Un jour, j'étais assis dans mon église à côté de Paris et Dieu m'a dit, Jérémie, tu te ranges trop. Il m'a dit, celui qui ne veut pas déranger, se range. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus me ranger par peur de déranger. Je ne veux plus me ranger. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Il a commencé avec 1000 holocaustes pour Dieu. Il a fini à bâtir 1000 autels pour des dieux étrangers. Il y a des autels qu'on bâtit dans nos vies, des autels de désobéissance. On se retrouve avec une personne alors que Dieu ne nous avait jamais dit d'aller avec cette personne. On se retrouve à acheter une maison alors que Dieu ne nous avait jamais dit de faire ça. On se retrouve dans un travail et Dieu ne nous avait jamais dit de faire ça non plus. Et on arrive là-dedans et on se dit, oui, mais faire demi-tour, ça coûterait cher. Changer de travail, me repentir, ça coûterait cher. Oui, la désobéissance et la repentance, ça coûte cher. Mais c'est tellement glorieux derrière. C'est tellement glorieux. Dans 1 Roi au chapitre 12, il y a cette histoire de Roboam. Le peuple est venu auprès de lui, il lui a dit, ton père a imposé un joug sur nous, allège ce joug. Il a été voir les anciens, ils lui ont dit, oui, allège ce joug, parce que ce peuple te sera soumis. Mais il a été voir ses anciens camarades, et ils lui ont dit, non, n'allège pas ce joug, mais sois encore plus fort et plus dur et plus méchant que ton père. Et il a tout perdu. Parce qu'il a suivi de mauvais conseils. Il a cherché la faveur de ceux qui étaient auprès de lui, au lieu de chercher la faveur de Dieu. Dieu avait parlé à Saül, il lui a dit, Saül, obéis bien à ma parole. Tu iras vers ce peuple et tu ne laisseras rien de vivant. Mais la Bible dit que Saül écouta la voix du peuple et il mit de côté ce qu'il y avait de meilleur parmi le peuple. Et le prophète s'est approché de lui et lui a dit, mais qu'est-ce que ce bêlement que j'entends ? Il lui a dit, ah oui, mais c'est le peuple. Le peuple m'a amené à garder ce qu'il y avait de meilleur, soi-disant pour l'offrir à Dieu. Et Samuel lui a dit, parce que tu n'as pas accompli la parole de Dieu, voici ta royauté est déchirée. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. On n'a pas besoin d'être bizarre avec Dieu. On n'a pas besoin de prendre des positions, ou de prendre une certaine voie, ou de faire paraître des trucs qui ne sont pas. Parce que Dieu n'est pas bizarre. On doit simplement refléter ce qui est dans notre cœur, notre amour pour Jésus. Des fois, on est même avec des frères et des sœurs dans l'église et on se contient. Une sœur m'a écrit dernièrement, elle est la femme d'un pasteur et me dit « Mais il y a un feu qui brûle en moi, mais mon mari est pasteur et il ne veut rien entendre à propos du Saint-Esprit. » Il dit « Je vais à la réunion de prière et tout le monde est là et personne ne prie à haute voix. » Et c'est tellement dur pour moi. Pour aller là où Dieu veut que tu ailles, tu feras toujours face à des gens. Et il te faudra toujours prendre des décisions. Est-ce que tu cherches la faveur des hommes ou est-ce que tu cherches la faveur de Dieu? C'est très facile de paraître. Très facile de montrer une certaine image. Et c'est là qu'on passe à côté de ce que le Seigneur veut. Saül a tout perdu. Dans Jean chapitre 12, au verset 42, la Bible dit que les gens restaient endurcis par rapport au message de Jésus. Et au verset 42, il est dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. » Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus poursuivait la gloire de Dieu. Mais ces gens étaient tellement établis dans le temple qu'ils sont restés là. Ils n'ont pas confessé leur foi. Ils n'ont pas confessé ce qui devait être confessé. Et certainement, ils sont restés là dans la mort. Jésus est l'exemple suprême de quelqu'un qui n'a pas cherché la gloire des hommes, mais qui a cherché la gloire de Dieu. Jean-Baptiste est aussi un de ces exemples. Il était là et lorsque les pharisiens venaient auprès de lui, il aurait pu dire « Oh, voilà !» Voilà les pharisiens, voilà les chefs religieux, voilà une place pour moi, une position pour moi. Mais il les a confrontés et il leur a dit, race hypocrite, repentez-vous. Le prophète Jérémie a crié à Dieu au bout d'un moment, il a dit, mais Seigneur, je suis la risée de tout le monde et tout le monde se moque de moi parce qu'à chaque fois, tu me donnes des messages de condamnation et de jugement. Être la risée de tous. On doit mourir à la crainte de l'homme. On doit mourir à la peur des gens. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 27 que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans craindre, sans avoir peur de la colère du roi, car il s'est montré déterminé voyant à l'avance celui qui était invisible. La peur t'empêchera de partager ta foi. Dieu a dit au prophète Jérémie, j'endurcis ton front pour que tu l'opposes à leur front, et j'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face. Et tu marcheras sur des scorpions, sur des ronces et sur des épines. Mais parle et ne te tais pas. Parle à cette famille de rebelles. Et toi, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange le rouleau que je te donne. La rébellion, c'est tout ce qui, dans notre vie, ne se soumet pas à Dieu. C'est tout ce que nous faisons ou tout ce que nous ne faisons pas, alors que Dieu nous a dit de faire ou de ne pas faire. On doit mourir, et c'est ma prière, je dois mourir à la peur des hommes. Et plus je m'approcherai du Seigneur, et plus je sais que je n'aurai plus peur de l'homme. Plus je m'approcherai de lui, et plus il me sera facile de redescendre et de parler de la part de Dieu aux hommes. Il dit, lève-toi, brille, et que ta lumière paraisse. Sois éclairé, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Et sur l'obscurité des peuples se lève la lumière. C'est difficile de se lever parmi une nation, parmi un peuple, parmi une église, parmi une famille, ou dans un travail, de se lever pour la vérité. Et c'est tellement plus facile de couler avec les choses qui se font. C'est difficile dans un travail quand on t'a donné un bon poste et que tu vois que tout le monde vole à droite et à gauche et que tu es entraîné dans ces choses-là, de dire je suis désolé mais je ne peux pas faire cette chose-là. Parce que tu sais que si tu le fais, tu vas perdre ton travail. Plusieurs parmi les chefs crurent en Jésus, mais par peur d'être exclus de la synagogue, ils ne le confessèrent pas. Souvent on a peur d'être exclu, on a peur d'être mis à part, mais mieux vaut être mis à part et être mis à part pour Dieu que d'être accepté par les gens et que d'être applaudi par les gens et que d'être aimé par les gens et d'être accepté, approuvé, complimenté par les gens. Il est préférable d'être complimenté par Dieu. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a ces hommes qui sont venus faire des menaces aux apôtres après qu'ils aient prêché le nom de Jésus. Et eux, ce n'était pas une place dans une banque, ce n'était pas une place dans la synagogue qu'ils pouvaient perdre, mais c'était leur vie. La Bible dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est à ce stade, mes frères et sœurs, qu'on doit arriver. Ils ont fait des menaces. Ils nous disent, nous vous interdisons de parler encore en ce nom-là. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas. Oh, il n'était pas comme le peuple d'Israël qui disait, nous ne pouvons pas monter contre ces géants parce qu'ils sont plus forts que nous. Non, ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas parler de ce Jésus qui a transformé nos vies. Ils avaient le pouvoir, ces chefs religieux, de les tuer sur place. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh, je veux arriver à ce stade. Je veux arriver au stade où lorsque je prêche la parole de Dieu partout dans les nations, et qu'il arrivera un moment où les nations commenceront à se lever, il arrivera un moment où les terroristes commenceront à dire « Tu te parles encore de ce Jésus et je te tue maintenant. » Oh, je prie afin de pouvoir parler de ce nom de Jésus et mourir dans la gloire de Dieu comme Étienne, voyant Jésus qui se lève à la droite du Père et qui dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. » La vie sur cette terre, ce n'est qu'un passage. La vie sur cette terre, ça ne dure qu'un instant. À cause de la peur des hommes, on passe à côté de la gloire de Dieu. À cause de la gloire des gens, à cause de la gloire des hommes, de l'approbation des gens, on passe à côté de la gloire de Dieu. Celui qui ne veut pas déranger, il se range. Il s'assoit sur sa place et il prie comme les autres. Les gens prient, Alléluia, Amen. Je prie, Alléluia, Amen. J'ai été dans un institut biblique, j'en avais 19 ans, on était appelé au ministère. Je me suis dit, bon ok, je vais regarder à droite à gauche, j'avais vu mon pasteur et un autre pasteur, je me suis dit, être pasteur c'est ça. Tu vas à l'école biblique, on te forme, après tu es pré-stagiaire, après tu es stagiaire, après tu es pasteur, on te donne une église. C'était ça dans ma tête. Je m'étais imaginé que c'était ça. Un jour, une femme de Dieu dans l'église, une vieille femme, s'est levée et elle a dit, aussi longtemps que tu croiras que c'est ton appel, aussi longtemps ce sera dur pour toi de savoir quel est ton véritable appel. Il a fallu plus de 10 ans que j'accepte quel était l'appel de Dieu pour moi. Jusqu'il n'y a pas très longtemps. Parfois on imagine des choses. Parfois on copie, on pense que c'est ça. Mais ce n'est pas ça. J'étais dans cet institut biblique et j'étais là dans les cours. Et surtout j'étais là dans cette chapelle, dans cette église. Et j'ai entendu ces gens, il y en avait qui venaient d'Afrique, il y en a qui venaient d'Europe et d'autres du Canada, d'autres des îles. Et lorsque je les ai entendus prier, ils priaient tous de la même façon. Ils avaient tous le même accent. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Si la main veut être un pied, ça va être dangereux. Et si le pied veut être une main, va dire bonjour aux gens et tu verras comment ils vont te regarder. La Bible dit que Dieu nous a placés les uns et les autres comme il l'a voulu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu distribue ses dons comme il le veut et à qui il veut. La Bible dit que Dieu a placé dans le corps les membres comme il les avait voulu. Et ceux qui paraissaient les moins honorables, il les a entourés d'un double honneur. Pour que ceux qui manquent d'honneur puissent en recevoir. Dieu a placé le corps comme il l'a voulu. Et on doit simplement être dans l'endroit, à la place où Dieu m'a voulu. Je dois être là où Dieu le veut. Et je dois faire ce que Dieu veut. Il y a des choses dans notre corps qui empêchent des choses. Il y en a d'autres qui distribuent des choses. Les poils dans nos nez servent à quelque chose. Et le sang qui coule dans nos veines sert à autre chose. Si le sang dans mes veines commence à vouloir faire comme les poils de mon nez, ça va poser problème. J'aurai les artères bouchées. Tu ne peux pas copier la vie de quelqu'un. Et tu ne peux pas devenir l'imitation de quelqu'un, à moins de devenir l'imitation du véritable. Ces gens étaient là et ils priaient tous de la même façon. Il y en avait un, il avait un appel d'évangéliste. Il y avait une femme qui était là, mais bien sûr, elle, quand dans ce mouvement-là, on lui avait dit, tu es une femme, tu ne peux pas être dans le ministère. Alors peut-être qu'aujourd'hui, elle est en train de balayer dans l'église, alors que Dieu l'avait appelée à prêcher, ou à s'occuper des enfants, ou à faire je ne sais quel ministère. Il y en avait qui avaient un appel d'évangéliste. Ils sont tous sortis les uns après les autres pasteurs. On a tué les prophètes. On tuait les prophètes dans l'Ancien Testament. On tue les prophètes aujourd'hui. Il y en avait qui avaient un appel d'apôtre ou d'évangéliste ou d'enseignant. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et comme docteurs et pasteurs. Pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ, afin que nous parvenions au stade, à la mesure parfaite, stature parfaite de Christ. Mais si je suis nourri seulement par le pasteur, je ne pourrai jamais être et parvenir à la stature parfaite de Christ. Je ne pourrai jamais entrer dans un perfectionnement parfait, puisqu'il me manque les quatre autres ministères. Je ne suis pas pasteur. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pasteur. Et un jour, mon pasteur m'a dit, mais si tu prêches tout le temps comme ça dans l'église, les gens vont fuir. Et je prêchais les messages que Dieu me donnait. Le pasteur, il prend soin des brebis. Et bien sûr, tous les ministères prennent soin des brebis. Mais ils ont un exercice différent, une façon d'opérer différente. Et si tu veux opérer dans la façon du pasteur, alors que tu es un évangéliste, tu vas faire comme beaucoup de pasteurs, ou comme beaucoup d'évangélistes, pardon. Tu vas commencer une église, les gens vont se donner au Seigneur, et tu vas rester là toute ta vie, évangéliste, dans une église à pourrir. Et à pourrir les gens avec toi. Tu as appelé à louer Dieu. Tu as appelé à chanter. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a parlé. Tu sais. Et tu regardes à droite et à gauche. Tu dis, ok, voilà ce qui se fait. Voilà ce que je vais faire. Comment l'église pourra être parfaite et glorieuse et sans tache et ni ride si elle regarde des gens ridés et qu'elle essaie de faire comme eux? Il y a des mystères. L'apôtre Paul a reçu un mystère, le mystère de l'Église. Une révélation. Parce qu'il était ouvert. À sa conversion, Dieu l'a aveuglé pendant 3 jours. Pour lui montrer, il a reçu tellement de révélations pendant ces 3 jours. pour lui montrer qu'il ne devait pas marcher par la vue, qu'il devait marcher par la foi, pour lui montrer qu'il devait dépendre de Dieu et non pas dépendre d'un homme, pour lui montrer qu'il lui serait impossible de marcher sur la terre un seul jour sans l'aide de Dieu et sans la lumière de Dieu. Il a fait un choix, il était déterminé à mourir s'il le fallait. Je veux arriver là. On doit arriver là. Aimer la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu. Nous devons exercer, nous devons chercher et entrer et vivre dans la dimension de l'esprit, non pas dans la dimension de la chair. On doit vivre dans la dimension de l'esprit et pas dans la dimension de la chair, parce que dans la chair, nous allons mourir, frères et sœurs. Dans la chair, on va faire des trucs. Sans accomplir ce que Dieu avait pour nous. On doit aller profondément dans la dimension de l'esprit. Je dois aller dans la dimension de l'esprit et je dois aller chercher en profondeur. Tu dois creuser. La Bible dit « Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Dieu est prêt, il est plus prêt aujourd'hui qu'il ne l'était quand nous avons été sauvés. On doit chercher Dieu. Oui, on doit chercher Dieu. Oui, effectivement, Dieu habite en nous, il est sur moi, il est avec moi, mais ça ne va pas m'empêcher de le chercher. Parce que je ne suis pas satisfait de la présence de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que je veux le chercher. Et je veux aller en profondeur, chercher le Père. Et je sais que je dois chercher le Père. Je sais que cela m'amènera dans des temps de consécration, dans des temps de visitation, dans des temps de lamentation aussi. Dieu a montré à Jérémie, au prophète Jérémie, trois étapes. Le chaos, les lamentations et le devenir. On veut devenir quelqu'un et on ne veut pas passer par la lamentation, mais ça n'arrivera pas. On veut entrer dans les plans de Dieu et on ne veut pas entrer par les lamentations, mais on ne pourra pas. Et ce qui est fou, c'est que les gens ne sauront pas. Vous ne savez pas si aujourd'hui je suis à la place que Dieu veut pour moi. Vous ne savez même pas si Dieu approuve le fait que je sois là en train de vous prêcher. Vous ne pouvez pas le savoir. Dieu seul le sait et ma conscience qui m'en rend témoignage ou pas. Et de la même façon, vous pouvez occuper un poste, être quelque part, exercer dans une fonction, et on ne sait pas si vous êtes à la bonne place. Il va falloir passer, frères et sœurs, par des temps de lamentation où tu cherches la gloire de Dieu, profondément insatisfait. Profondément insatisfait. Tu cherches à être agréable à Dieu et tu ne te permets pas d'imiter des gens qui sont autour de toi, même s'ils sont gentils, même si ce sont mes frères, même si c'est ma propre femme ou mon meilleur ami. Je ne veux pas leur ressembler parce que je veux ressembler à Dieu, créer à sa ressemblance. Vous connaissez ce message ? Créé à l'image de Dieu, fait à sa ressemblance. Je veux non seulement l'entendre, mais je veux y arriver. Je veux y parvenir. Et ça se passe dans des temps de lamentation. Ça se passe dans des temps où tu meurs à toi-même, où tu meurs à tes désirs personnels, où tu meurs à ton appel. Obligatoirement, tout appel que Dieu te donne, tu devras mourir. Et tu devras dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Je meurs à cet appel. Je me souviens lorsque j'ai fait cette prière. Je me souviens lorsque j'ai dû mourir à mon appel. Mes façons de penser, j'avais ma façon de voir. Et ce n'est pas du tout celle de Dieu. Le problème, c'est que j'étais trop avec les gens et pas assez avec Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus aller à l'église? Non, bien sûr que non. Tu dois être fidèle plus que quiconque dans la maison de Dieu parce que c'est là que Dieu te rafraîchira. C'est là que Dieu te restaurera. C'est là que Dieu te bénira. C'est là surtout que tu seras une source de bénédiction. Mais tu dois surtout aller en haut. Et là où tu es dans l'église, tu dois amener aussi les gens en haut avec toi. Pourquoi il y a si peu d'églises qui vivent la gloire de Dieu ? Ben parce qu'il y a si peu de chrétiens qui vivent chez eux la gloire de Dieu. Tu ne peux pas amener quelque chose dans l'église que tu ne vis pas chez toi. Sinon tu le feras et ce sera sans puissance. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi parce qu'il était déterminé. Je vous encourage vraiment à être déterminé. Des fois, les obstacles, les blocages, ce sont, imaginez, ce sont juste des façons de penser qui m'empêchent de prêcher la parole de Dieu. Une pensée contraire à Dieu, rebelle à Dieu, m'empêche de parler à une personne alors que mon esprit me pousse à opérer. Et souvent, nous nous soumettons à la pensée rebelle à Dieu. Que devenons-nous ? Des rebelles. Je veux me soumettre à Dieu. Et Père, je prie pour ton peuple. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce qu'au-delà des mots et au-delà des paroles, tu as parlé dans la conscience de ton peuple et je crois que tu le feras encore et je te le demande même maintenant, Saint-Esprit. Viens mettre à la lumière toutes les apparences, l'hypocrisie, tout ce qui est faux. Et viens par le feu de sa sainteté, purifier et sanctifier ton peuple. Père, nous renonçons à la peur des hommes, à rechercher la faveur des hommes, à rechercher d'être approuvés par les hommes. Parce que nous savons que si nous le faisons, ce sera pour notre perdition. On veut être agréable en tout point. En tout point. On veut t'aimer, Seigneur Jésus, et continuer à t'aimer, jour après jour, et aller jusqu'au bout. Père, merci. Alléluia. La crainte et l'amour de Dieu n'est pas contraire à la soumission aux autorités. Et je dois, bien sûr, faire cette parenthèse. Puisqu'il y a souvent des jeunes qui sont appelés par Dieu et qui disent « Ok, Seigneur, je vais te suivre, je vais te suivre » et qui méprisent les autorités. Et bien sûr, ce n'est pas biblique. Puisque Dieu a établi des autorités dans l'Église et c'est important de se soumettre aux autorités et les uns aux autres. Mais jamais une autorité ne devra m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. C'est pour ça que les apôtres, parfois, tu parlais à quelqu'un, Dieu a parlé à Pierre, il lui a dit « tu vas prêcher ». Ou à Paul, il dit « tu vas prêcher à ces gens-là ». Pierre a eu cette vision, il lui a dit « tu vas prêcher aux païens ». Et il a discuté avec les autorités. Et il leur a dit, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Il était dans une attitude d'amour, de douceur, de soumission. Et ils en ont parlé ensemble. Et il a été libéré. Quand le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas, ça s'est fait encore libéré par les ministères. Et c'est important de ne pas aller au-delà des autorités dans l'Église. Mais de pouvoir simplement leur parler. Si j'ai quelque chose dans mon cœur par rapport au ministère, et de travailler ensemble, dirigé par le Saint-Esprit. Mais au-delà de l'Église, aussi dans nos familles, je vous encourage vraiment, n'allez pas dans le compromis. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le scrupuleusement. Vous devez jeûner, jeûnez. Vous devez le faire une journée, deux jours, trois jours, 40 jours, faites-le. Obéissez au Seigneur, scrupuleusement. Vous devez confesser la parole de Jésus. Même si on va se moquer de vous, faites-le. Et dans le monde, faites-le. Faisons-le ensemble pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. C'était une joie pour moi de prêcher la parole de Dieu. Et que l'Église avance et qu'elle soit glorieuse. Sans tache ni ride. Là où il n'y a plus de condamnation, il y a la liberté. la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et on peut avancer avec le Seigneur et se corriger. On peut tomber et le Seigneur nous relève. L'important, c'est d'avancer et de continuer à avancer. Et de continuer à vouloir chercher à plaire à Dieu et lui être agréable. Personne n'est parfait, mais nous avançons tous ensemble. Nous avançons tous ensemble vers le Seigneur pour lui plaire et lui être agréable en toutes choses. Et obéir scrupuleusement à sa parole. Alors au point où nous en sommes, comme dit la parole de Dieu, avançons ensemble et servons le Seigneur avec joie et de tout notre cœur. Faisons ce qu'il nous a dit et que nous avions oublié, que nous avions enfermé et commençons à briller. Levons-nous et glorifions le Seigneur. Amen. Hallelujah.